Le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Ah ben, j'espère que c'est quelque chose que vous pouvez dire au plus profond de vous-même ce matin. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, et il a penché son oreille vers moi. Et, comme le psalmiste dit, et je l'invoquerai toute ma vie. Et là, il raconte un peu sa douleur. Il raconte ce qu'il a vécu. Et au verset 4, il dit, « Mais j'ai invoqué le nom du Saint de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde ceux qui sont simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. » Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Il y a un chant qu'on chante, hein? Vous vous souvenez, c'est cantique, hein? Oui, oui. Et on chantera, tiens, à la fin, pour clôturer. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. Et c'est ce verset que j'aimerais m'arrêter ce matin. Il dit pas « j'élèverai la coupe de délivrance », il dit « j'élèverai la coupe des délivrances ». Il n'y a pas de mots qui sont mis là, le temps est singulier, pluriel, passé, présent, futur. Il n'y a pas de mots qui sont laissés dans la parole pour rien. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». La question qu'on pourrait se poser avant de commencer ce message ce matin, est-ce qu'on a une idée de ce que c'est la coupe des délivrances? Intéressant, hein? Est-ce qu'on a une idée, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est la coupe de délivrance? Pourtant, dans cette coupe de délivrance se trouvent tous les trésors cachés que Dieu veut nous déverser en nous pour qu'on puisse progresser et marcher jour après jour avec lui. La coupe des délivrances. Et j'espère que ce matin, eh bien, si c'est quelque chose d'abstrait pour vous, eh bien, que ça devienne une réalité, parce que le Seigneur veut vraiment que vous veniez boire à cette coupe, des délivrances, parce qu'il veut déverser en vous. Et ça rappelle un peu la coupe que Jésus présente à la Sainte Seine, hein? Oui, oui, oui. Dans cette coupe, là, il y a la libération, on est libéré du péché, on est libéré de la mort, on est libéré de l'isolement dans lequel on était souvent dans le monde, on vit seul, à part des autres. Cette coupe, elle nous permet d'avoir une communion avec le Seigneur, avec notre prochain. La coupe des délivrances. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ton amour, pour ta bonté envers chacun de nous. Seigneur, comme le psalmiste, nous savons que tu es miséricordieux, que tu es juste, que tu es plein de compassion, et que lorsque nous ouvrons la bouche, Seigneur, même les yeux fermés, et que nous regardons vers le ciel, nous savons que tu es là. Et comme le psalmiste, Seigneur, nous savons que tu tends l'oreille. Tu tends l'oreille, Seigneur, vers ceux qui t'invoquent, vers ceux qui crient à toi, parce que, Seigneur, tu veux les délivrer. Tu veux les délivrer, Seigneur, dans toutes choses. Nous te rendons grâce ce matin pour ta parole que tu nous as laissée, et que tu puisses vraiment nous fortifier, Seigneur, et faire en sorte que nous sortions d'ici, en ayant la certitude que tu nous as visités tous et chacun dans nos cœurs, et que tu as répondu à nos besoins. Et tout cela, nous te demandons, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Alors, il peut arriver quand la vie devient difficile, voire même insupportable, que même des chrétiens peuvent douter que Dieu est bon. Les gens sont souvent déstabilisés lorsque la souffrance ou une douleur profonde apparaît soudainement dans leur vie. Au lieu de faire confiance à Dieu, ils commencent à s'interroger. Comment peux-tu permettre que je vive une situation aussi terrible? Je pensais que tu étais un Dieu aimant qui prenait soin de moi. Quand ça va bien, hein, c'est des Alléluia, des Amen, et puis on y va par là, quoi. Hein? Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, il est à mes côtés, puis il vient avec moi, puis il se déplace avec moi, puis il est partout, puis il parle à travers moi, puis on y va, hein. Puis quand ça va mal, on regarde par là, voir ce qu'est le Seigneur, puis souvent il est déjà plus en avant de nous, hein, il est déjà en avant, quoi. Le Seigneur est toujours avec nous, quoi. Hein? Et c'est une question de foi, bien sûr. Si vous avez une fausse conception de la façon dont Dieu agit, vous avez peut-être était amené à croire que vous n'auriez jamais de difficultés et que vous échapperiez aux épreuves de la vie. Dans ce message, Dieu nous demande de le suivre sans discuter, car il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Vous dites « Amen » à ça? Il ne vous abandonnera jamais. C'est important, ça, de retenir ça. Ça fait partie de votre marche chrétienne. Vous n'êtes plus jamais seul à partir du moment où Jésus entre dans votre vie. Vous n'êtes plus jamais seul. Et on va voir ce matin à travers ce passage, parce que ce n'est pas un psaume de David, c'est un psaume de quelqu'un qui a vécu une situation difficile. Et il y a beaucoup à nous apprendre ce matin. Pardon. Dieu nous demande de boire jusqu'à la lie, la coupe des délivrances, et d'invoquer son nom. Vous vivez peut-être en ce moment une situation difficile. Vous êtes peut-être tenté d'abandonner votre foi. Rappelez-vous que Jésus a promis qu'il ne vous délaisserait jamais, qu'il ne vous abandonnerait jamais. Psaume 9, verset 11, « Car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. » Car il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers lui. Jamais Dieu les abandonne. Et même avant qu'on le rencontre, même avant qu'on connaisse Dieu, même avant qu'on reconnaisse même qu'il existe, il est là, il veille sur nous. Et ce qu'il veut, c'est nous amener à participer à la coupe des délivrances. Et ça comprend le salut aussi en Jésus-Christ. Ça comprend ce que notre frère a dit tantôt aussi, la sanctification. L'auteur du psaume 116 a souffert et il a vécu toutes sortes de situations angoissantes pendant une certaine période de sa vie, au point, quand on lit le passage, qu'il désespérait même de vivre. Psaume 116, verset 3. Les liens de la mort me tenaient déjà enchaîné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais, écrit-il, en proie à la détresse et à l'angoisse. On ne connaît pas la cause ici de son angoisse, mais elle l'avait amené à être complètement désespéré. Ce désespoir l'avait conduit à croire que tout n'était que mensonge et que tout le monde était menteur. Verset 11. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Et puis soudainement, en plein milieu de son épreuve, il va invoquer le nom du Seigneur pour être soulagé, pour être délivré. Il va alors découvrir une autre facette de la bonté de ce Dieu incroyable, au point où cela va stimuler sa foi et son espérance en Dieu. Versets 5 et 6. L'Éternel est miséricordieux, c'est-à-dire bienveillant, et juste, c'est-à-dire fidèle. Mais Dieu, notre Dieu, pardon, est plein de compassion. L'Éternel garde ceux qui sont simples. J'étais malheureux, j'étais bien bas, et il m'a sauvé. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'on est tellement des gens entêtés, des gens orgueilleux, des gens bornés, qu'il attend qu'on soit souvent dans la même situation que le psalmiste pour dire, écoute, hey, réveille-toi, quoi. Réveille-toi, je suis là, quoi. J'étais tombé pas bas, bien bas, et il m'a sauvé. Et frères et sœurs, il y en a qui sont plus orgueilleux que d'autres, il y en a qui sont plus entêtés que d'autres, et il y en a qui doivent tomber bien plus bas que d'autres pour commencer à regarder vers le haut, à lâcher le regard sur les hommes, abandonner le regard sur les hommes, et à regarder en haut, et là reconnaître qu'il y a un Dieu bienveillant, un Dieu créateur qui veille sur sa créature, et que tout ce qu'il veut, c'est vraiment faire en sorte qu'elle se rapproche de lui, parce qu'il y a de riches bénédictions à lui donner à travers la coupe des délivrances. Il est tout à fait naturel qu'il veuille donner quelque chose à Dieu. Hein? Il est tout à fait naturel que le psalmiste ici... Un échange culturel. J'ai compris que quand Salvatore préside, ça prend deux verres plutôt qu'un. Il boit beaucoup. Alors ici, dans le cas présent, il est tout à fait naturel que le psalmiste veuille donner quelque chose à Dieu et en retour de ce qu'il a fait pour lui, parce que dans sa fidélité, Dieu l'a délivré de cette crise dans laquelle il était plongé. Verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » C'est-à-dire, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment je peux faire en sorte, moi, de rendre à l'Éternel le bien qu'il m'a fait? Ça, c'est une bonne question à se poser, ça. C'est la question que le psalmiste se pose. Comment pouvez-vous faire, vous, pour rendre à l'Éternel tout le bien qu'il vous a fait. J'aurais peut-être 50 réponses ici. C'est vrai? Comment on peut faire pour rendre à l'Éternel le bien qu'il nous a fait? Comment peut-on rendre à l'Éternel l'amour qu'il nous a donné en Jésus-Christ? Comment pouvons-nous rendre à l'Éternel la bienveillance qu'il nous accorde jour après jour? Comment pouvons-nous rendre en retour à l'Éternel, eh bien, toutes les richesses qu'il nous donne jour après jour? C'est des bonnes questions, ça, qu'on doit se poser. C'est bien de les poser, c'est bien aussi de trouver les réponses. Et le psalmiste ici, il va nous donner certaines réponses. Il savait qu'il y avait une seule chose qu'il pouvait faire, verset 13. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » J'élèverai la coupe, je ne la cacherai pas cette coupe-là. Je ne cacherai pas mon appartenance à Jésus-Christ, la coupe du salut. Je ne cacherai pas mon appartenance à Jésus-Christ. La coupe de communion qu'elle représente aussi, cette coupe, je ne cacherai pas que je fais partie d'un corps, que je fais partie d'une famille, que je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. La coupe aussi de guérison, parce qu'à travers Jésus-Christ, j'ai été guéri. Guéri de l'esclavage du péché dans lequel je me trouvais. Guéri de ma façon de voir les choses comme le monde les voit qui ne mènent à nulle part. Guérison. Oui, je vais montrer, oui, je vais rendre témoignage. Guérison, la coupe des délivrances. La coupe des délivrances, ça comprend tout ça, frères et sœurs. Je trouve que c'est une belle image. Frères et sœurs, le psalmiste n'est pas seul à réagir comme ça. On voit la même chose, la même réaction survenir dans la vie de David. Dans les moments de grande détresse, il a lui aussi crié à Dieu. Psaume 27, verset 12, pour ceux qui ont leur Bible. Il dit au Seigneur, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » David, vous connaissez un peu la vie de David, c'est quelqu'un qui a fait face à des mensonges, à des calomnies, et qui a ressenti une profonde angoisse au plus profond de son âme. Frères et sœurs, c'est une chose lorsque les gens racontent des mensonges à votre sujet, mais ce qu'il y a de pire encore, c'est lorsque vous commencez à croire leurs accusations. C'est lorsque vous vous mettez à croire les mensonges qu'ils ont racontés sur vous. C'est dans ces moments-là que vous allez souvent entendre la voix du diable qui vient vous chuchoter des paroles de condamnation pour vous culpabiliser, et vous avez alors l'impression que ce que vous vivez est encore plus grave que vous ne pouviez le penser. Les paroles négatives qui sont envoyées par le malin à travers des personnes et qui font en sorte que votre situation, qui peut être normale ou peut être difficile, va devenir de plus en plus compliquée parce qu'il a réussi à vous culpabiliser. David continue, il dit, verset 13, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? » Hey, frère, c'est vrai, hein? C'est vrai, frère et sœur, hein? Qu'est-ce qu'on deviendrait si on n'avait pas l'assurance que Dieu manifestera sa bonté dans nos vies jour après jour? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Que devient le monde maintenant parce que le gouvernement n'est plus capable d'agir en bon gouvernement, je parle au niveau social, de pourvoir aux besoins des gens parce qu'il est trop endetté, parce qu'il est en train d'exploser. Les gens n'ont pas de réponse. Tout ce que les gens cherchent, c'est qu'on n'augmente pas les impôts, c'est qu'on n'augmente pas les taxes, les frais scolaires, le chauffage, l'électricité, l'essence. Mais les gens, les gouvernements n'ont pas de réponse à donner au monde. Mais nous, on a une assurance, parce que ça fait partie du caractère de Dieu d'être bienveillant. Et le mot bienveillant, c'est un des mots les plus importants qui caractérise bien, qui définit bien la personne de Dieu, parce que c'est à travers la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? C'est bienveiller au bien de l'autre. Donc, c'est la bienveillance de Dieu qui lui pousse à nous aimer sans jamais penser mal, à pourvoir à nos besoins, parce que dans sa bienveillance, il veut qu'on ait... Écoutez, c'est fort, hein, mais Dieu veut qu'on ait le même confort qu'il a, quoi. C'est extraordinaire, ça. Et c'est ça, aimer l'autre comme soi-même, hein. Écoutez, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi, hein. Et Jésus, dans son 100% homme, eh bien, il veut qu'on reçoive les mêmes bénédictions que lui a reçues de son Père céleste. Des fois, on prend Jésus, on le met là, et puis nous, on se met là. Et quand Jésus dit, celui qui croit en moi fera encore des plus grandes choses que moi. Faut pas être orgueilleux pour dire ça, hein. Faut avoir un esprit d'humilité, hein. Que celui qui croira en moi, eh bien, fera de plus grandes choses que moi. Est-ce qu'on pèse vraiment le poids de ces paroles-là? Mais il faut passer par la même coupe que Jésus a passée, la coupe des délivrances. Il faut apprendre à mourir à soi-même comme Jésus l'a fait. Dans le dernier verset de ce psaume, David, hein, toujours David, il dit au verset 14, Et il nous montre jusqu'à quel point il a acquis une grande sagesse. Et il encourage tous ceux qui vivront par la suite des moments difficiles. Regardez ses paroles. « Espère en l'Éternel. » C'est-à-dire quoi? « Compte patiemment sur lui. Espère en l'Éternel. » Je pense que je me trompe pas. Non, psaume 27, verset 14. Oui, c'est bon? OK. Vous voyez des gens qui cherchaient. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Prends courage. Espère en l'Éternel. Oui, compte patiemment sur lui. Espère en l'Éternel. » Et j'espère que ce matin, votre espérance, elle se trouve en l'Éternel. J'espère que votre espérance, elle se trouve dans les choses de Dieu, non pas dans les choses du monde. Parce que les choses de Dieu, elles sont appelées à durer toujours. Bon, je ne sais pas si mon langage est compliqué à comprendre ce matin, mais comme le psalmiste, fortifiez votre cœur et affermissez-vous dans les choses de l'Éternel. L'apôtre Paul a vécu d'innombrables persécutions. Tournez avec moi dans 2 Timothée 1, versets 11 et 12. 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 et 12. En tout cas, s'il y en a un dans le Nouveau Testament qui a été persécuté, c'est bien Paul. Il a été persécuté, il en a connu de toutes des vertes et des pommures. Et on dit ça ici, oui, des vertes et des pommures. C'est bon. Et à travers celle-ci, eh bien, il écrit que tout ce qu'il a, que tout ce qu'il a expérimenté, c'est la fidélité de Dieu. Il écrit « Dieu m'a chargé d'annoncer l'Évangile en tant que prédicateur et apôtre. » Et un peu plus loin, il dit « C'est à cause de cela que je subis ces souffrances, mais j'en ai point honte. Je demeure plein d'assurance, en d'autres mots, car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru. J'ai pas placé ma confiance dans des hommes qui changent constamment d'idées, qui changent constamment de programme, qui changent constamment de goût. J'ai placé ma confiance en Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Dis, t'amènes à ça? C'est important. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important, ce verset-là? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qui est écrit ici, ça ne pourra jamais, jamais changer. On est des chrétiens du 21e siècle. On peut être certain que les chrétiens du 1er siècle avaient la même parole, les mêmes mots que nous, parce que Dieu ne change pas. Dieu peut arriver au 3e siècle, dire, écoutez, j'ai essayé quelque chose avec l'Église, ça fait 300 ans, ça va pas. On change la recette. Hey, ça serait terrible pour ceux qui sont morts avant nous, hein? Dieu dit, ouais, ben là, je change la recette. J'avais cru que le salut, il passait par là, mais ça devait être trop compliqué. On va modifier ça un peu, quoi. Et les gens seraient morts en vain, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on peut avoir une assurance. Voilà pourquoi on peut placer notre confiance. Et Dieu va bien plus loin que ça. Il dit qu'un jour, la terre et le ciel vont être détruits par le feu, mais que la Bible, la parole de Dieu, ce qu'il nous a laissé, ça va durer pour l'éternité. Et pourquoi ça va durer pour l'éternité? Parce que ce que Dieu nous enseigne maintenant, ben c'est la même chose qu'il va nous enseigner dans l'éternité, puisqu'il change pas. Faudrait être ridicule pour dire qu'il nous a appris une chose maintenant, puis qu'il arrive en haut et dit « Ouais, mais tout ce que je vous ai appris, vous oubliez ça, c'était pas vrai. C'était pour vous tester. Maintenant, on va apprendre autre chose. On va apprendre une autre vérité. » Ça serait ridicule, quoi. Donc, ce que vous apprenez maintenant, il n'y aura pas de surprise en haut, c'est ce que vous allez apprendre en haut, quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Je suis pas en train de dérailler, je divague pas, c'est ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut y faire une confiance aveugle. C'est pour ça qu'on n'a pas à remettre en question la parole. Parce que Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et pourquoi le psalmiste? Et pourquoi David? Et pourquoi Paul? Et pourquoi même Jésus, dans son 100% humanité, ont marché dans les voies du Seigneur sans broncher? Parce qu'il savait qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne changeait pas. Que la parole qu'il nous a donnée aujourd'hui, c'est la même. Elle est bonne aujourd'hui, elle était bonne hier, elle sera bonne demain, puis elle sera bonne pour toute l'éternité. C'est une parole qui ne se démode pas. Il y a des best-sellers qui apparaissent dans les journaux et qui apparaissent dans les kiosques, dans les librairies. Ça se vend à coups de millions. Et dans quelques années, ça ne sera plus qu'un souvenir. Cette parole, ça fait des siècles qu'elle a été écrite. Et vous savez que la Bible, c'est encore le livre le plus vendu à travers le monde. C'est un livre qui ne se démode pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là pour, comme certains best-sellers, je pense surtout la série Harlequin. Et c'est pas là pour stimuler nos sentiments puis nous faire pleurer. C'est là pour nous montrer ce qu'on est, quoi. Hein, les Harlequins, tous les petits Harlequins, les nous deux puis tout ça, là. Ça me rappelle des vieux souvenirs, mais vous savez, ça fait pleurer les gens, ça. Ça les amène dans un rêve. Et là, ils sortent de la réalité de la vie. Puis ils attendent le prince charmant. Puis ils attendent de gagner le gros lot. On est dans un rêve, quoi. Mais Dieu nous parle de la réalité de la vie. Dans ça, Dieu ne nous cache rien. Il nous annonce même d'avance qu'on va vivre en tant qu'être humain. On va tomber malade. Il y en a qui risquent de tomber malade, plus ou moins gravement malade. Il y en a qui risquent de passer par des épreuves plus ou moins difficiles que les autres. Mais il nous dit une chose, que jamais, jamais il va nous abandonner, qu'il sera jamais, jamais il va nous délaisser, qu'il sera toujours là. Comme il était avec ceux qui nous ont précédés, comme il était avec Jésus, comme il était avec Paul, comme il était avec vous, et comme il sera avec ceux qui vont nous suivre, nous succéder, si Jésus n'est pas revenu bientôt. Paul dit à Timothée qu'il n'a pas honte de servir Dieu, que s'il a été harcelé, c'est parce que Dieu l'a appelé à partager l'Évangile. Cependant, il n'a pas été vaincu par cet harcèlement qu'il subissait, puisqu'il savait que Dieu était capable de le garder et de le soutenir dans toutes ses souffrances. Ce que Paul disait à Timothée est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Lorsque ce moment difficile est passé, vous pouvez dire comme Paul avec certitude, « Je sais en qui j'ai cru et je peux lui faire confiance. » Et si vous faites confiance à Dieu, vous en sortirez grandi, votre foi sera fortifiée. Mes amis, il y a des gens qui ont accepté de boire jusqu'à la nuit la coupe des délivrances de Christ, peu importe le prix à payer, parce qu'il y a un prix à payer. Le prix que Jésus a payé, c'était de donner sa vie. Et frères et sœurs, en retour, il en a reçu une grande bénédiction. Grande bénédiction. Les frères et sœurs, on va avoir les mêmes bénédictions que Jésus a reçues. On doit aussi boire cette coupe de délivrance jusqu'à la vie. Et on doit aussi accepter d'en payer le prix. Et d'en payer le prix, c'est Christ a accepté de donner sa vie pour nous sauver. Et bien, de la même façon, il nous demande aussi de donner notre vie pour qu'à travers nous, il puisse continuer à en sauver l'autre. Ça, c'est de boire la coupe des délivrances. Et Dieu, à travers cette coupe de délivrance, nous délivre aussi de la timidité à laquelle souvent, la timidité qui peut demeurer en nous, parce qu'il nous rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de puissance, qui est capable, au-delà de notre timidité, au-delà de notre sentiment d'infériorité, de continuer à toucher les âmes, les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore la personne de Jésus-Christ. Et ça, ça passe par la croix. Et ça passe par la même coupe que Jésus a bu. Il a bu jusqu'à la nuit. Il a payé le prix entièrement. Il a donné sa vie. Et il nous demande de donner notre vie. Il est mort. C'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, ceux qui ne connaissent pas vraiment le système de la croix, le mystère de la croix, ils se disent, oui, il a donné sa vie. Oui, oui, c'est beau. Il a prêché l'amour. Il a prêché ci, il a prêché ça, mais il est quand même mort, quoi. Oui. Mais sa victoire, c'est que la grande victoire de Christ, c'est qu'il a aussi remporté la victoire sur la mort, quoi. Et il promet à tous ceux qui croient en lui, qu'un jour aussi, il va les ramener de la mort à la vie. Vous êtes amen à ça? Ça, c'est le vrai christianisme. Je suis pas en train de vous parler d'une religion là, qui est fade, qui va disparaître un jour. Ça, c'est le vrai christianisme, ça. C'est une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort pour vous, quelqu'un qui est ressuscité, et quelqu'un qui va venir vous chercher. La Bible est claire aussi. On nous parle de la venue du Messie. Elle nous parle de la mort du Messie. Elle nous parle de la résurrection du Messie. Elle nous parle qu'un jour, le Messie va revenir aussi. Ça, c'est important pour vous aussi. Vous devez vivre aussi en fonction de ce retour probable de Jésus dans votre génération. La Bible nous donne même des signes qui annoncent son retour. Gardons nos yeux fixés sur ces choses-là. Il y a des chrétiens qui, à cause des blessures et des ecchymoses qu'ils ont subies avant de rencontrer Christ, sont attirés seulement par la puissance de guérison qui se trouve en Jésus. Ils s'accrochent aux paroles qu'il a prononcées dans la synagogue lorsqu'il a dit, Luc chapitre 4, verset 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pardon, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le don de la vie aux aveugles pour libérer les opprimés. » C'est vrai que Dieu veut vous libérer, veut vous guérir des cicatrices que le péché vous a laissées pendant toutes ces années où vous avez vécu sans lui. Lorsque vous venez à Christ, il veut aussi vous restaurer complètement. C'est comme lorsque vous achetez une vieille maison. En principe, une des premières choses que vous allez faire, c'est d'entreprendre des travaux de restauration. Hein, vous allez examiner les murs, l'état des murs, et vous allez vous appliquer à boucher avec du plâtre les trous ou les traces qui ont été laissées par les différents cadres et les différents objets qui ont été appliqués sur les différents murs de la maison pendant de nombreuses années. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire après avoir mis du plâtre? Eh bien, vous allez poncer les endroits que vous avez retouchés afin de préparer le mur pour être peint. Ah, c'est comme ça qu'on fait, non? Hein? D'habitude, on ne peint pas le mur avant de boucher les trous. On bouche les trous avant de peindre les murs. Quoi. Mais le Seigneur, il fait la même chose avec nous. Hein? Il guérit les zones où nos cicatrices et nos blessures sont apparentes. Il pense les endroits, il pense les endroits dans nos cœurs qui ont subi des dommages et il retire la souffrance qui a été gravée par des paroles blessantes que nous avons entendues qui ont marqué nos vies. Tout le monde a entendu des paroles blessantes. Hein. Je vous dirai pas comment on m'appelait quand j'étais jeune, quoi. Hein. Mais ça nous blesse, ça nous fait mal, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Moi, j'ouvre une petite parenthèse, quoi. Ça me fait plus saigner mes mains, ça, mais quoi. Je vais vous raconter ça un petit peu, quoi. Au Québec, on a des patinoires l'hiver, des patinoires extérieures, et vous savez, c'est un peu, il y a une grande musique, quoi. Les parcs publics construisent des patinoires artificielles et là, bon, on va patiner dans le but de rencontrer une fille, hein, puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, au centre, eh bien, les gens qui décident de se reposer se tiennent au centre, ils papotent ensemble, puis les autres, ils continuent à tourner autour, et ils patinent. Un jour, moi, je pense que j'avais 14 ans, quoi, je m'essaye avec une fille, quoi, hein, dans le sens que, je dis, est-ce que ça vous serait intéressé à patiner avec moi, quoi? Elle me dit non, t'es trop un gros nez. J'en ris aujourd'hui, hein? Mais à 14 ans, en pleine adolescence, ça m'a donné un coup, hein? Je me regardais dans le miroir à tous les jours, j'étais là, pfff. J'essayais de me rétrécir le nez, quoi. Bon, elle le dit, elle, pourquoi? Parce que t'es pas intéressé, elle va peut-être avoir un copain, puis elle était peut-être jaloux, puis elle voulait pas patiner avec moi, quoi. Mais c'est une parole qui m'a blessé pendant longtemps, quoi. Après, quand je regardais une fille, j'essayais de me coincer un peu le nez, quoi. Bonjour. C'est vrai, quoi. C'est vrai, hein? Ou quelqu'un qui vous dit, ah ouais, mais toi, t'as des grosses oreilles, j'aime pas ça sortir avec toi. Ça nous fait mal, quoi, hein? C'est quand même pas nous qui avons choisi la grosseur de nos oreilles, quoi. Hein? On a les oreilles qu'on a, quoi. C'est vrai. Et c'est, des fois, c'est des paroles subtiles qui nous font mal, mais qu'on traîne pendant des années. Et le Seigneur, il est là aussi. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres plus cruels. Bon, je ne fais pas la liste ce matin, je ne vais pas vous faire pleurer, mais le Seigneur est là aussi pour guérir ses paroles, quoi. Et là, je ne sais plus où je suis rendu. Alors, le Seigneur entre dans notre cœur pour accomplir un formidable travail de restauration. Il ponce, il vernit jusqu'à ce que tout soit complètement transformé. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à travers Jésus-Christ, il devient notre nouveau propriétaire. Il devient le nouveau propriétaire de notre cœur. Notre cœur nous appartenait, on était le propriétaire de ce cœur. On n'était pas capable de restaurer, de guérir quoi que ce soit à l'intérieur. Mais Jésus-Christ, quand il prend possession de notre cœur, il en devient le nouveau propriétaire. Et comme pour l'achat d'une maison, eh bien, il voit l'intérieur. Hein? Rappelez-vous, je frappe à la porte de ton cœur, si tu entends ma voix, hein? Ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec toi. Eh bien, cette maison spirituelle qui est notre cœur, eh bien, lorsque le Seigneur en prend possession, lorsqu'il en devient le propriétaire, il va commencer un travail de restauration dans nos vies. Il connaît vos blessures. Il connaît vos défectuosités psychologiques, mentales. Il connaît vos problèmes avec le péché. Et ce qu'il va faire, il va faire un travail de restauration et un travail de délivrance dans votre vie. Pourtant, il y a plus encore à recevoir à la coupe de délivrance que celui de guérir. Il y a la coupe de communion. Et on n'aura pas le temps rapidement d'en parler ce matin, mais il ne faut jamais prêcher l'Évangile en disant aux gens que s'ils viennent au Seigneur, ils sont toujours heureux. Et que s'ils viennent au Seigneur, ils ne seront jamais malades et ils ne seront jamais persécutés. Ça, il ne faut pas dire ça, c'est pas vrai. Allons parler aux chrétiens qui ont été persécutés dans les arènes de Rome au premier siècle, et qui ont été brûlés comme des torches vivantes, d'aller leur dire qu'il n'y a pas de souffrance quand on est pour Jésus-Christ. Les gros problèmes, quoi. Allez parler au prophète dans l'Ancien Testament qui est mort d'une maladie importante, allez lui dire qu'un chrétien n'est jamais malade, il va vous dire, écoute, je ne sais pas où tu as lu ça, quoi. Allez parler à Paul, qui a laissé un onésime qui était malade, le grand apôtre Paul qui n'a pas été capable de le guérir en y imposant les mains, et Paul va vous dire, ça, c'est pas l'Évangile que j'ai prêché, quoi. La maladie, ça fait partie de notre corps mortel. On n'est pas encore été racheté dans notre corps. Dans notre âme, dans notre esprit, on est racheté. Mais on n'a pas encore été racheté dans notre corps. Ça, c'est important. On n'a pas un corps immortel, on a toujours un corps mortel. Et le corps immortel, incorruptible, on va le recevoir plus tard à la résurrection des morts. Ça, c'est important. La maladie, c'est important parce que Dieu Dieu parle souvent énormément à travers la maladie, à travers les épreuves. L'apôtre Paul était capable de dire « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Galates chapitre 6, verset 7, 17, il était capable de les montrer. Et il dira « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection ». Écoutez, il dit « Tout ce que je désire aussi », Philippiens chapitre 3, verset 10, c'est d'avoir part à ses souffrances. Qui désire avoir part aux souffrances de Jésus ce matin? Il n'y a qu'une façon. Qu'une façon, prêcher le même évangile de Paul que Paul a prêché, et vous allez avoir part aux souffrances de Jésus-Christ. En dehors de ça, là, il n'y en a pas. Je regrette, hein? Vous êtes malade, vous souffrez dans votre corps, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et vous voulez avoir part aux mêmes souffrances que l'apôtre Paul? Prêchez l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a prêché l'évangile. Il était celui qui nous a précédés. Il nous a montré les souffrances qu'on subirait parce qu'on prêche aux gens qui sont pécheurs, parce qu'on prêche aux gens que Dieu déteste le péché mais qu'il aime le pécheur, parce qu'on met en lumière ce que les gens font de mal. C'est ce que Jésus dit. Les gens m'ont haï, mais ils vont vous haïr à cause de moi, parce que vous leur annoncez ce qu'ils font en secret, que ce qu'ils font en secret est mal. C'est ce qu'il dit dans Jean, dans l'Évangile de Jean. Écoutez, c'est n'importe qui, ce qui va vous aimer. « Hey, ça va toi? Hey, viens prendre un verre avec moi. Oh, je vais te le payer. Non, laisse faire. Attends, un deuxième, allez. Troisième, allez. » Facile de se faire des copains comme ça. Il va lui dire que Dieu l'aime. Il va l'expliquer pourquoi Dieu l'a aimé. Il va toujours passer à la croix. Il est impossible de ne pas passer par la croix et de parler de l'amour de Dieu. C'est impossible. La croix, qu'est-ce qu'elle dit? Tu étais perdu dans ton péché. Tu es tellement orgueilleux que tu ne te vois pas tel que tu es. Mais Dieu qui t'a créé, lui, te voit parfaitement. Dieu, c'est une lumière incroyable qui transperce ton cœur bord en bord. Et ton orgueil te cache vraiment ce que tu es. Maintenant, moi, à travers l'Évangile, je te montre ce que tu es. Et je veux que tu changes. Je veux te transformer. Je veux que tu deviennes semblable à la personne de Jésus-Christ. Es-tu prêt à accepter ça? Écoute, tu es un pécheur, tu as péché. Il y a un châtiment pour avoir désobéi à la justice de Dieu. Comme il y a un châtiment, en principe, quand on désobéit à la loi des hommes. Tu désobéis, t'as désobéi à ma loi, il y a un châtiment. Mais moi, je veux tout faire pour pas te punir. Je veux pas que tu l'aies, ce châtiment-là. Et est-ce que tu reconnais que t'as péché? Eh oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Maintenant, écoute, la seule façon pour éviter que tu subisses ce châtiment, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le porte à ta place. C'est qu'il y ait quelqu'un qui subisse la punition que tu méritais pour ton péché. Maintenant, écoute, c'est pas un coupable qui peut payer et qui peut subir le châtiment pour un coupable, puisqu'un coupable mérite le châtiment du coupable. Et ça prend un innocent. Ça prend quelqu'un qui n'a jamais péché. Et Dieu porte son regard partout sur la terre, et il ne trouve pas personne, puisque tous ont péché, et sont privés de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il regarde à son fils à côté de lui. Et il dit, « Mon fils, ça fait partie de mon plan éternel. On est en relation ensemble depuis toute éternité pour te préparer à descendre sur la terre et à subir le châtiment que tous ces coupables méritaient. Est-ce que tu es prêt à le porter? » Christ a dit oui. Et c'est ça le mystère de la croix, c'est ça le scandale de la croix. Il y a un innocent, et cet innocent, c'est pas n'importe qui, c'est pas le moindre des hommes, c'est Dieu lui-même qui se fait homme en Jésus-Christ et qui vient payer le prix, le châtiment qu'on méritait pour nos péchés et qui dit en retour, tu es acquitté. En retour, parce que tu étais perdu, en retour, tu es maintenant sauvé. Tu vivais sans espérance. Maintenant, tu as une espérance pour tout de suite et pour l'éternité. Tu étais séparé de Dieu, maintenant tu es rétabli avec Dieu. Tu étais ennemi de Dieu, maintenant tu es réconcilié avec Dieu. Ton père, écoute, tu étais un étranger, tu étais un fils rebelle, un rebelle. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un héritier du royaume. Et on va passer l'éternité ensemble. Avec tout ce que Dieu est en train de te préparer. Veux-tu accepter cela? C'est ça la question de l'Évangile. Veux-tu laisser tomber ton orgueil? Veux-tu t'humilier, reconnaître que tu es pécheur et accepter le sacrifice que Christ a payé pour toi? C'est ça l'Évangile. Voilà où se trouve l'amour de Dieu. On ne la mérite pas, cet amour-là. Dieu, écoutez, si Dieu s'était simplement écouté, il aurait dit, j'en ai rien à cirer avec ce monde-là qui m'oublie, qui me crache dans le visage jour après jour, qui vit sans moi jour après jour. Et aussitôt qu'il y a un trouble, il y a un problème, il vient de dire que c'est à cause de moi. Dieu, écoutez, c'est difficile, on n'est pas capable de comprendre cet amour-là. Dieu en Jésus-Christ qui meurt pour sa créature. Vous comprenez ça, vous, le Créateur, qui se fait homme, qui vient mourir pour vous? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens à ma question du début. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui montrer qu'on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous? La même chose que Christ a fait. Donner sa vie. Donner sa vie pour lui. Donner notre vie, pardon, pour lui. En terminant, la raison pour laquelle vous traversez les épreuves, c'est pour que vous puissiez regarder les autres qui se trouvent derrière vous, qui suivent vos traces, et que vous puissiez leur dire qu'ils peuvent aussi y arriver. L'apôtre Paul a encouragé les autres à travers ces épreuves en disant, « Vous avez vu tout ce que j'ai enduré tout au long de ma vie. Dieu a permis que cela m'arrive pour que vous puissiez progresser dans votre foi, pour vous montrer que le même Jésus qui vous a sauvé, non seulement il ne vous abandonnera pas, mais il vous soutiendra. Il sera avec vous dans l'épreuve comme il était avec Noé lors du déluge, et comme il a été avec Shédrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, et comme il a été avec tous les autres chrétiens qui vous ont suivis et qui ont vécu les persécutions et les épreuves. » C'est exactement ce que Paul écrit dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 7. Il parle du Dieu de consolation. Il dit, « D'abord, Dieu m'a consolé à travers mes épreuves. Pourquoi? Pour qu'après, je sois en mesure d'être capable de consoler les autres. Et frères et sœurs, c'est pour ça que vous vivez les épreuves. Frères et sœurs, je suis capable de parler à ceux qui ont eu des cancers aujourd'hui parce que j'ai passé par un cancer. Avant, j'allais les visiter, je les écoutais, puis je disais, « OK, je vais prier pour toi. » Mais j'avais pas la compassion. J'avais pas cette compassion. Ça me faisait souffrir de les voir, mais j'avais pas cette compassion. J'avais de la difficulté à me mettre à sa place. Mais je suis passé par là. Maintenant, écoutez, il y a quelque chose de plus qui s'est rajouté. Quand je vais visiter les gens qui sont malades, c'est différent maintenant. Voilà pourquoi on doit boire la même coupe que Jésus a bu pour être capable d'avoir cette compassion que Jésus avait quand il est venu nous visiter. Et la souffrance, elle fait partie de ça. Elle fait partie de l'école de formation du Seigneur. On n'aime pas entendre parler de souffrance. La preuve, on vit dans un monde qui a pas peur de mourir, mais qui a peur de souffrir. Bon. Les gens, c'est normal qu'ils n'ont pas peur de mourir, ils savent pas où ils s'en vont. S'ils savaient où ils s'en allaient, ils auraient peut-être deux fois plus peur de mourir que de souffrir, quoi. Lorsque les autres passent par des moments difficiles, pénibles, nous serons capables de leur donner le même réconfort que Dieu nous a donné. Vous pouvez être certain que plus nous souffrons pour Christ et plus nous verrons Dieu nous réconforter à travers Christ. Quand nous sommes écrasés par les problèmes de toutes sortes, c'est pour notre bien, pour notre salut, dit Paul. Car ce que lorsque Dieu nous console, c'est pour que nous puissions en retour être capables de vous encourager, dit Paul. Vous pouvez alors endurer patiemment les mêmes choses que nous avons souffertes. Et là, je lis ce qu'il dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Et je termine, c'est la deuxième fois que je le dis, c'est la bonne. Rappelez-vous que le psalmiste a dit qu'il était fort affligé, et dans sa précipitation, il va dire que tous les hommes sont menteurs. Mais il y a un moment où il va crier à Dieu et lui donner la victoire. Verset 12, le psaume 116. En signe de remerciement pour la bonté que Dieu lui a manifesté, il va dire quoi? Comment je suis en mesure de rendre à Dieu le bien qu'il m'a fait? C'est la question qu'on devrait se poser ce matin. Comment rendre à Dieu le bien qu'il m'a fait? Oui, c'est vrai que c'est en le louant, mais c'est aussi en le servant. C'est aussi de boire dans cette coupe qu'il nous offre à travers la personne de Jésus-Christ et de boire jusqu'à la vie. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Seigneur, toi, tu t'es rendu jusqu'au bout. Moi aussi, je vais me rendre jusqu'au bout, Seigneur, parce que tu m'as aimé. Il a vécu des moments difficiles, le psalmiste, et en jetant un œil, il en arrive en arrière, il comprend, il peut maintenant dire, « Ô Dieu, je comprends maintenant ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je comprends que tu es en train d'agir dans ma vie. » Et de même, David a aussi connu la victoire dans des moments difficiles parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Il savait que Dieu pouvait réaliser l'impossible dans sa vie et le conduire de l'autre côté. Frères et sœurs, que nous puissions aujourd'hui nous encourager à travers le vécu du psalmiste, de David, de Paul et de Jésus. Hein? Ce ne sont pas des gens qui se sont dérobés pour boire la coupe du salut jusqu'à la nuit, Par conséquent, je prierai Dieu en disant, « Seigneur, aide-moi aussi à boire la coupe jusqu'à la nuit. Je vais t'invoquer parce que je sais que je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Je sais qu'il n'y a seulement toi, Seigneur, qui peux le faire dans ma vie. » Amen.